Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la manifestation de l'opposition contre le projet de changement de constitution a tourné au drame ce vendredi à Kinshasa. Elle a été réprimée par les forces de l'ordre aux abords du Palais du Peuple. L'opposition dresse un bilan provisoire de deux morts et de blessés. En Ituri, la riposte contre Ebola se renforce avec une augmentation du nombre de sites de prise en charge à Bounia. Cependant, il faut encore des efforts pour améliorer la situation dans des zones situées loin du chef-lieu. Nous aurons des précisions de Médecins Sans Frontières sur place dans ce journal. L'invité de ce journal est le commandant Serge Ilunga, pilote de ligne et expert en transport multimodal. Il propose comme solution aux embouteillages à Kinshasa, notamment la création d'une tour de contrôle du trafic routier inspirée du modèle aéronautique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux morts et deux blessés. Bilan encore provisoire dressé par l'opposition politique à la suite d'une manifestation ce vendredi à Kinshasa aux abords du Palais du Peuple. Des coups de feu et des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser des militants de l'opposition venus participer à un sit-in relocalisé au terrain à Sossa dans la commune de Kassavubu. Les organisateurs dénoncent l'usage disproportionnel de la force par les services de sécurité. Cette manifestation qui visait notamment à dénoncer la proposition de loi sur l'organisation du référendum perçue par ses initiateurs comme une tentative de la révision de la Constitution. Récit des faits avec Grâce Hamzati Massanzi.
La matinée est restée calme malgré l'important dispositif sécuritaire déployé autour du Palais du Peuple. Des dizaines d'éléments de la police nationale congolaise ont été positionnés sur les principaux axes menant au siège du Parlement pour empêcher tout rassemblement en marge de ces sit-ins interdits la veille par les autorités de Kinshasa. La situation bascule en début d'après-midi. Des militants de l'opposition réunis au siège de l'SID de Martin Fayoulou sur le boulevard Triomphal tentent de marcher vers le Palais du Peuple. Pour les disperser, la police fait usage des gaz lacrymogènes et tire plusieurs coups de sommation. S'en suivent des scènes de panique, avec des personnes courant dans tous les sens, tandis que la circulation est fortement perturbée dans les secteurs. Après plus d'une heure de face-à-face avec les forces de l'ordre, les manifestants sont finalement repoussés à plusieurs centaines de mètres du Parlement. Contactés par Radio Okapi, les organisateurs avancent un bilan provisoire des deux militants de l'SID tués et de plusieurs blessés graves, dont les opposants Martin Fayoulou, Delice Sanga, Jamar Kabound et Ados Ndombassi. Des allégations non confirmées par les sources officielles. Depuis le Palais du Peuple, Grâce Hamzati Massanzi, Radio Kapi.
Autre volet de l'actualité au Nord Kivu, le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO réaffirme l'engagement de la mission onusienne en faveur de la paix dans l'Est du pays. James Swan a clôturé ce vendredi une visite d'environ 72 heures à Goma. Selon lui, ce déplacement s'inscrivait dans le cadre du mandat de la MONUSCO, tel que défini par la résolution 2808 de l'année 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des détails avec Bernard Nyangi.
Au cours de son séjour, James Swan a rencontré séparément le représentant de l'Alliance Fleuve Congo FCM23 ainsi que le commandant d'autres membres du mécanisme conjoint élargi de vérification plus MCVE+. Les discussions ont porté sur les efforts en cours pour renforcer les dispositifs de suivi et de vérification du cessez-le-feu, indique un communiqué du bureau du chef de la MONUSCO. Le chef de la mission onusienne s'est également entretenu avec les équipes de la MONUSCO et des Nations Unies. Ces échanges ont permis de faire le point sur la situation sécuritaire, politique et humanitaire, ainsi que sur les priorités opérationnelles dans le contexte actuel, notamment la réponse à l'épidémie d'Ebola. Enfin, James Swan a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination des efforts de paix au niveau régional, international et national. Il a notamment évoqué les processus de Washington et de Doha et ceux de l'Union africaine. La MONUSCO, a-t-il assuré, reste prête à appuyer la mise en œuvre de ces initiatives dans le cadre de son mandat.
En Ituri, les capacités de prise en charge des malades d'Ebola se renforcent progressivement depuis la déclaration de cette épidémie le 16 mai dernier. Le nombre de centres de traitement a considérablement augmenté, notamment à Bounia, l'un des principaux foyers de la maladie. Mais malgré ces avancées, les besoins restent importants, surtout dans les zones de l'intérieur de la province où des cas suspects continuent d'être signalés. C'est ce qu'a indiqué l'ONG Médecins Sans Frontières lors d'un café de presse ce vendredi à Bounia. Reportage d'Isaac Remoyopi.
Une semaine après la déclaration de l'épidémie, seuls 3 centres de traitement d'Ebola étaient opérationnels à Ituri, à Rwampara, à l'hôpital général de Bunia et à Mungwalu. Leur capacité d'accueil était limitée et ces structures étaient débordées. Depuis, de nouveaux centres ont été mis en place. C'est notamment le cas du centre ouvert par Médecins Sans Frontières à l'hôpital privé Eliki à Bunia, qui dispose d'une capacité d'accueil de 60 patients et affiche déjà complet. Un autre centre de 100 lits est en cours de construction sur place. D'autres structures ont également été ouvertes, notamment par Samaritan Pars, Alistem Nyakunde à Bunia, ainsi que par l'ONG International Medical Corps. Frédéric Manatsoa, coordonnateur des urgences à MSF.
Il y a eu une réactivité assez impressionnante sur la riposte. Rien qu'à Bunia, il y a 6 centres qui reçoivent des patients qui sont complètement submergés. Les occupations sont complètement à 100% tout le temps.
Malgré ces efforts, plusieurs zones où des cas suspects sont signalés ne disposent toujours pas des centres spécialisés pour la prise en charge des malades. Pour Médecins Sans Frontières, il est indispensable de décentraliser davantage les structures de traitement afin de rapprocher les soins des communautés et de mieux contenir la propagation de l'épidémie.
Il y a beaucoup de besoins, surtout au niveau rural, donc la décentralisation elle est très importante pour de garder l'épidémie là où elle a apparu.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, les autorités provinciales du Nord Kivu renforcent des mesures préventives dans la ville de Beni. Des dispositifs de lavage de mains sont installés aux principaux points d'entrée et de sortie de la ville afin de limiter la propagation de la maladie. Les services de sécurité accompagnent les équipes des ripostes pour veiller au respect strict de ces mesures par la population. Marc Marofimbo, reportage.
Aux différents points d'entrée et de sortie de la ville de Beni, la rigueur s'impose dans l'application des mesures de prévention contre Ebola. À Mukulia, Paida, Mavivi et Pasisi, des dispositifs de lavage de mains ont été installés, chacun doté de réservoirs de plus de 5000 litres d'eau. Sur place, tous les passants, piétons, motards, chauffeurs de taxi, des véhicules de transport en commun ou des camions sont appelés à descendre pour se laver les mains avant de se soumettre au contrôle de la température corporelle. Sur l'axe Butembo-Beni, Mboussa Katehe, conducteur de moto-taxi, appelle la population au respect strict de ces mesures. Selon lui, la maladie est bien réelle et continue de faire des victimes. Moi, je reconnais que la maladie existe. Elle est là et elle tue. J'ai accepté volontairement de me laver les mains. C'est normal car la maladie existe. J'attire l'attention de ceux qui disent que la maladie n'existait pas, c'est comme s'ils n'écoutaient pas le nombre de morts de cette maladie. Ils doivent savoir que la maladie existe, nous devons nous conformer aux exigences. Il convient de signaler que les barrières érigées aux principaux points d'entrée et de sortie de la ville ouvrent la voie de nombreuses entités dans les provinces de l'Ituri et de la Tchopo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Maniema, le ministre provincial de la Santé a interdit l'achat du tramadol sans prescription médicale, c'est-à-dire sans présenter une ordonnance signée par un médecin qualifié. Cette mesure fait suite à l'utilisation abusive de ces produits dans cette province. La prise excessive du tramadol a en effet des graves conséquences sur la santé humaine. On écoute à ce sujet le docteur Alexis Tchomba au micro de Florence Kizalunga.
L'utilisation de tramadol, c'est pas seulement à Lwutu, c'est dans toute la province. Même ici dans la ville de Kindu, les jeunes utilisent les tramadol comme drogue. Alors nous avons instruit qu'on décourage la vente de tramadol dans les officines pharmaceutiques sans ordonnance signée par un médecin. Alors tout celui qui va délivrer, qui va vendre les tramadol sans ordonnance médicale signée par un médecin, il sera sanctionné sévèrement. Alors, à part ça, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes de ne plus utiliser les tramadol parce que vous connaissez, ça a beaucoup de conséquences, ça peut affecter le système nerveux et tant jeune, c'est pas bien. Donc la sensibilisation continue pour la non-utilisation de tramadol dans la ville de Kindu et pourquoi pas dans la province de Maniema en général. Vous savez, chaque produit quand vous prenez en excès, ça va affecter quelque part. Comme le tramadol c'est une drogue, ça va affecter le système nerveux. Et quand ça affecte le système nerveux, madame, vous connaissez, vous pouvez devenir comme un fou, comme un anormal et que ça peut affecter votre vie et votre avenir. C'est pourquoi nous décourageons l'utilisation abusive des tramadol et nous demandons à la population d'attendre la prescription médicale des tramadol afin de l'utiliser.
La MONUSCO et les FARDC renforcent les mesures de protection des civils dans les territoires d'Irumu et de Djougou en Ituri et dans certaines entités du territoire de Beni au Nord Kivu. À travers des patrouilles conjointes des jours et des nuits, les deux forces renforcent leur présence sur le terrain, notamment dans les zones sous menace des rebelles de l'ADF. Les porte-parole de la force de la MONUSCO, le colonel Charles Idjiwa, nous en parle. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Les 5 et 6 juin 2026, les unités de la brigade d'intervention de la MONUSCO ont mené des patrouilles conjointes robustes de jour et de nuit avec les FADC dans plusieurs zones du territoire de Bénin. Les opérations ont couvert plusieurs axes stratégiques, notamment Mavivi, Mbao, Matiba, Oicha, ainsi que les secteurs de Mamové, Ouloulou, Erengeti, Luna et Ndalia, afin de renforcer la présence sécuritaire, prévenir les activités des groupes armés et rassurer les populations civiles. C'est ainsi que le 7 juin 2026, les casques bleus de la MONUSCO basés à Komanda ont sécurisé un office religieux à l'église catholique de Bachili afin de permettre aux fidèles de célébrer leur culte dans un environnement sûr et serein. Le 8 juin 2026, ils ont mené une patrouille nocturne dans le village de Bouanasura afin de renforcer la présence sécuritaire et de rassurer les populations civiles. Pendant ce temps, dans le territoire de Djougou, précisément dans la localité de Bourokpa, à cette même date, les CAS bleus et les FADC ont mené une patrouille conjointe dans le village de Bourokpa afin de renforcer la présence sécuritaire et de rassurer les populations civiles. À travers ces patrouilles conjointes, la MONUSCO et les FADC poursuivent leurs efforts de sécurisation des zones à risque tout en renforçant leur coordination opérationnelle pour répondre efficacement aux menaces contre les civils.
Retour en Ituri où la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée dans plus de chefferies du sud du territoire d'Irumu. Les autorités coutumières, les acteurs de la société civile attribuent cette accalmie aux opérations menées par les FARDC avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO contre les groupes armés, notamment les ADF. Cette amélioration permet aux populations de reprendre progressivement leurs activités quotidiennes. Ces témoignages ont été recueillis hier jeudi à l'occasion de la visite du commandant de la force de la MONUSCO dans la région. Isaac Remoyope revient de cette région. Voici son reportage.
Dans les chefferies de Banyari-Tchabi et de Baïma-Boga, à près de 100 km aussi de Bounia, une accalmie est observée depuis environ 4 mois, selon plusieurs sources locales. Cette amélioration de la sécurité permet aux habitants de circuler plus librement, notamment vers Kainama, dans la province du Nord-Kivu, et d'accéder à leurs champs. Une situation attribuée aux opérations militaires et aux patrouilles conjointes menées par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO.
Il y a l'accalmie pour le moment. Ça en fait aujourd'hui 4 mois. La MONUSCO travaille très bien avec la communauté.
Dans les chefferies voisines de Baïma Sud et de Walindoubindi, les FARDC et la MONUSCO poursuivent également les efforts de sécurisation de la population. Les autorités locales saluent notamment l'amélioration de la sécurité sur l'axe Bounia-Kassegni, long d'environ 55 km. Cette route était autrefois régulièrement la cible d'embuscades attribuées à des groupes armés. Les chefs du groupement de Babiassé.
La présence de la MONUSCO et des FARDC nous a beaucoup aidés. Auparavant, des cas de cambriolage étaient signalés presque chaque jour sur cette route. Depuis 2 ans, ce genre d'incident a disparu. La sécurité est garantie sur cet axe.
Le commandant de la force de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des casques bleus à poursuivre leurs actions de protection des civils aux côtés des FARDC dans cette partie de l'Ituri. De retour de Tchabi, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières, France, tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des attaques armées visant ses équipes dans la zone de santé de Kibirizi. C'est dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Entre janvier et juin 2026, au moins 6 incidents de braquage ont ciblé les convois humanitaires des Médecins Sans Frontières dans la zone. L'organisation avertit qu'elle pourrait réduire, voire suspendre ses activités si la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Bernard Nyangi pour les détails.
Cette préoccupation a été exprimée par Floribert Salomoulouko, coordonnateur intérimaire du projet MSF France à Kibirizi, lors d'une séance de sensibilisation tenue le mercredi 10 juin 2026 au bureau central de la zone de santé. C'était en présence des autorités sanitaires locales et des leaders communautaires. MSF indique que ces convois ont été attaqués à plusieurs reprises sur les axes Kiwanja Kanyabayonga, notamment à Busendo, Ruindi Kibirizi et Kibingo Kibirizi. Ces incidents s'ajoutent à ceux enregistrés entre novembre et décembre 2025, au cours desquels ces équipes ont subi des violences, y compris des actes de torture ainsi que des pillages de matériel médical. Face à cette insécurité persistante, MSF avertit que certaines de ses activités pourraient être réduites ou suspendues, mettant en péril l'accès aux soins pour des milliers de bénéficiaires. La rencontre visait à renforcer l'engagement des communautés dans la protection des acteurs humanitaires, à encourager la collaboration des leaders locaux et à promouvoir un environnement favorable à la continuité des services de santé tout en décourageant les actes de braquage et de pillage.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la crise politique née de la rupture entre le président et son ancien premier ministre pourrait-elle basculer en crise institutionnelle? C'est la crainte d'un large collectif de syndicats, d'intellectuels et d'acteurs de la société civile qui s'inquiètent de voir le bras de fer entre la présidence du pays et l'Assemblée nationale s'envenimer depuis l'élection d'Ousmane Sonko au perchoir. Ce collectif demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur sa légalité.
L'invité.
Il s'agit du commandant Ilunga Lukunga Serge, pilote de ligne et expert de transport multimodal. Il s'exprime sur la situation des embouteillages monstres enregistrés dans la ville de Kinshasa. Il propose la mise en place d'une tour de contrôle du trafic routier inspirée du modèle aéronautique afin de réguler la circulation et fluidifier les déplacements dans Kinshasa. Il s'entretient avec John Tiboabwa.
Commandant Ilunga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en transport multimodal. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa fait face à de nombreux embouteillages. Qu'est-ce qui en est à l'origine?
Il y a des causes lointaines, il y a des causes proches. C'est-à-dire que les causes lointaines, c'est comme une répartition déséquilibrée de la démographie. Vous avez Maluku qui prend 80% de la superficie de la ville de Kinshasa, mais n'a que 200 000 habitants, plus ou moins. Et vous avez la commune de Mongafula qui prend 3,5% de la superficie de la ville de Kinshasa et la commune de Mongafula n'atteint pas 300 000 habitants. Donc vous avez la commune de Ntsele qui a 10% de la superficie de la ville de Kinshasa et la commune de Ntsele ne dépasse pas 500 000 habitants. Et vous avez tous les restes, c'est-à-dire les 21 communes qui contiennent entre 12 et 15 millions d'habitants et là il n'y a que 7% de la superficie de la ville de Kinshasa. Donc vous avez plus de 90% de la superficie de la ville de Kinshasa, moins de 10% d'habitants, et vous avez 7% de la superficie de la ville de Kinshasa, où il y a plus de 90% de la population. Donc nous sommes dans une situation où tout le monde est confiné autour de ces 21 communes qui n'occupent que les 7%. Là. Ça, c'est la cause lointaine. Maintenant, il y a plusieurs causes qui ne sont pas lointaines comme celle-là. C'est comme l'indiscipline des chauffeurs.
Le gouvernement provincial a tenté à plusieurs reprises des alternatives, notamment des sens uniques dans des aires de pointe et aussi l'interdiction de véhicules poids lourds à marcher pendant la journée. Toutes ces solutions n'ont pas donné des résultats attendus. Est-ce que c'était des solutions non adaptées aux réalités?
Il y a aussi une certaine sorte de limitation des zones dans lesquelles peuvent accéder certains véhicules à certaines heures. Par exemple, quand vous prenez le boulevard du 30 juin, un véhicule de 50 tonnes ne peut pas y accéder la journée. On doit donner les heures. Vous prenez une rue comme Cabinda, à côté ici. Une rue comme Cabinda, un véhicule de 50 tonnes ne peut pas y accéder. Et même à minuit, on ne peut pas autoriser à ce véhicule-là. Donc, on catégorise les véhicules, on catégorise les zones et on détermine quel véhicule peut accéder à quelle zone et à quelles heures. Ça, c'est une des solutions immédiates pour résoudre le problème des embouteillages maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'avec mon véhicule, je ne peux pas accéder où je veux, quand je veux, et aussi les véhicules de transport. Vous savez, quand vous allez à Tchangou, par exemple, 70% des véhicules qui circulent à Tchangou là-bas sont des véhicules de transport. Sur une route de deux bandes, un véhicule de transport ne peut pas accéder à la bande qui est à gauche. Jamais. Et sur une route de deux bandes, les véhicules de transport restent sur la bande à droite et ils s'attendent là-bas. Ils n'ont pas le droit de se faire des déplacements là-bas. Et sur une route de trois bandes, le véhicule de transport n'accède à la bande du milieu que pour déplacer le véhicule qui est devant lui. Il n'a pas accès à la bande à droite. Voilà des mesures qu'on peut prendre maintenant et on sentira la différence maintenant. Les embouteillages de quartier 1 sont dus seulement et uniquement aux véhicules de transport qui ralentissent et s'arrêtent pour prendre les passagers. Je dis ceci, le problème des embouteillages, nous sommes capables de réduire les embouteillages de plus de 50% en 3 mois. 90 jours, on réduit ces embouteillages de plus de 50%.
Quelles sont les conséquences que les embouteillages apportent sur le quotidien des Quinois?
Je vais catégoriser les conséquences en 3 parce que j'aimerais bien que chacun voie que les embouteillages affectent tout le monde. Prenons les autorités qui ont des gyrophares et autres. Mais leur chauffeur se déplace comment? Alors vous avez un chauffeur stressé, fatigué parce qu'il a fait 3 heures sur la route pour arriver au travail. Et leurs pilotes, ils font comment? Ceux qui circulent dans leurs propres avions, leurs pilotes roulent où? Sur ces routes ici. Est-ce que vous savez que c'est arrivé à Kinshasa une période où certaines compagnies internationales, ils atterrissaient à Njili, leurs pilotes prenaient des petits porteurs pour aller dormir à Brazza parce qu'ils vont arriver à l'hôtel 2 heures plus tôt que s'ils dormaient à Kinshasa. Donc, vous voyez les conséquences pour les autorités. Pour nous autres ici, les conséquences, c'est quoi? C'est la performance au travail. Ça vous a pris 3 heures pour arriver au travail ce matin. Dans le cas contraire, vous êtes obligé de quitter chez vous à 4 heures, arriver au travail à 6 heures, 2 heures avant l'heure de travail pour fouiller les embouteillages. Sur le plan sanitaire, mais c'est grave. Et les investisseurs et les employeurs, ils perdent gros. Votre employeur perd une journée de travail par semaine parce que vous passez votre temps dans le véhicule, dans les embouteillages.
Nous vous disons merci, commandant Ilunga Serge.
Merci.
Et notre invité, le commandant Ilunga Lukunga Serge, pilote de ligne et expert en transport multimodal, s'entretenait avec John Tiboaboa. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Lévin Bouinga. Alain Goya sur la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.